Bonjour, je voulais simplement dire que la décision d'extrader Cesare Battisti va donner l'occasion à M. Chirac et toute sa clique d'obtenir quelques points de popularité quand il s'opposera à cette décision. Du moins, j'espère qu'il le fera. Toute cette affaire, à mon avis, n'est qu'une manipulation politico-médiatique dont Cesare Battisti est l'otage. C'était Cathy de la Haute-Garonne. Salut.
Oui, bonjour. Moi, j'habite Genève. Je m'appelle Joe. Et puis, il est 17h13. Et puis, je suis indigné de ce que vous, des messages qui sont laissés sur le répondeur concernant cette affaire là qui a tué des personnes, des pères de famille, hein, et puis qu'on soutient. Je ne peux pas comprendre qu'on passe des bandes comme ça à la radio pour soutenir des mécréants, des voyous, des voleurs, pour soutenir tous les gens qui emmerdent le monde avec leur grève, avec pour tout le monde. Ils veulent le bonheur de tout le monde, mais le bonheur, c'est de travailler. Et puis tous les gens qui n'ont rien à faire ou qui ne font rien et puis qui emmerdent le monde, ils ont qu'à bosser, chercher du travail, des petits boulots ou n'importe quoi, et puis vivre comme tout le monde. C'est tout. Eh bien, je vous souhaite quand même une bonne journée.
Salut Daniel, je suis les comptes rendus concernant l'arrêt de la cour concernant Battisti. Et ce que je comprends pas, c'est comment se fait-il que l'État français ne joue pas dans l'absolu le deal contre tout le terrorisme noir. Hein, je dirais, on a eu toutes les émissions la semaine dernière, enfin la semaine, qui nous ont permis de nous ouvrir les yeux sur ce qu'avait été le terrorisme noir de Piazza Fontana jusqu'à la gare de Bologne en 80, en exigeant, que ce qui a été voté à gauche puisse être voté et jugé à gauche puisse être jugé à droite. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui payent et que les autres restent dans l'ombre. Et puis cela coule douce. Allez, salut Daniel, puis bonne chance et j'espère que ton émission continuera longtemps. C'est Jean-Charles de Normandie, ciao.
Bonsoir, je suis Michel. Je suis en train d'écouter l'émission. Et je trouve ça quand même scandaleux de ne pas avoir d'avis contradictoires, de n'avoir que des avis, bien sûr, qui vont dans le sens de Battisti. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça complètement déplorable. Alors, se réfugier, j'entends en permanence dire qu'à cause de la nomination d'un nouveau PDG de Radio France, ce serait la droite qui s'installe et tout, mais quand on va ce genre d'émission comme il y a aujourd'hui, la parole est laissée complètement, qu'à un certain point de vue, en l'occurrence un point de vue de gauche, ce qui est pas... qui est tout à fait respectable, mais qu'on emmène de la contradiction, quoi. Je trouve ça complètement scandaleux.
Monsieur le Président, comme beaucoup d'autres citoyens de gauche, j'ai voté pour vous au deuxième tour de la dernière présidentielle par un attachement plein et entier à notre République. Je suis maire d'une petite commune jurassienne et en tant que tel, je vous assure, Monsieur le Président, qu'il y a des jours où je suis vraiment honteux et déshonoré de porter les trois couleurs, tant cela s'assimile pour moi à de la collaboration pétainiste. Monsieur le Président, je vous demande donc de bien vouloir rappeler à votre Premier ministre ce qu'est la parole de la France et ce qu'est la République. Parce que vous savez bien, Monsieur le Président, personne au monde ne pourra plus avoir confiance dans notre pays si Monsieur Battisti venait à être extradé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Daniel Rameau.
Beaucoup de réactions comme celle-là. Dans les deux sens, hein, il faut bien le dire, suite à l'extradition qui menace Cesare Battisti. Aujourd'hui, on va passer une heure avec le numéro du mois de juillet du Monde Diplomatique. Chaque mois, vous le savez, on se retrouve avec l'équipe de ce mensuel. Ça fait des années que ça dure. Et voilà, c'est un point de vue et un regard critique sur le monde. On pourrait l'appeler le grand bond en arrière. Aujourd'hui, si le titre n'était pas déjà employé dans le livre de Serge Halimi, un bouquin qui vient de sortir il y a quelques semaines chez Fayard et dont nous parlerons demain avec Serge Halimi. C'est vraiment le bouquin qu'il faut emmener sur la plage tout l'été. Et qui nous raconte non pas l'histoire de l'idéologie néolibérale, mais le basculement, comment l'idéologie néolibérale, les néolibéraux ont fait basculer complètement notre monde et l'idéologie qui est derrière la ce qu'on appelle la mondialisation, qui nous est présentée évidemment comme soit comme heureuse, soit comme naturelle. Ça, ce sera demain. Aujourd'hui, le monde diplomatique, et c'est Guy Ventil qui est allé en reportage dans ces contrées lointaines. C'est Daniel Mermez, c'est là-bas si j'y suis, c'est Guy Ventil, c'est le diplôme de juillet.
Flight number 2, arriving from New York.
Voilà, l'équipe du monde diplomatique est réunie pour ce numéro de juillet. Et vous, ce mois-ci, bien sûr, à Monet, vous n'avez pas fait un papier de géopolitique ni de géostratégie, mais de ce qu'on appelle les affaires familiales, les affaires de la sphère privée, en parlant des violences des hommes sur les femmes.
Absolument. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on a tendance à considérer que c'est un problème domestique, hein, qui se passe dans le huis clos familial, et que par conséquent, eh bien, ça relève, disons, des relations personnelles, etc. Je dis dans le papier, parce que les organisations, en particulier féministes, qui se penchent sur cette grave question, le répètent, et nous le savons, le privé, c'est politique. Je veux dire, à l'intérieur même de notre appartement, de notre foyer, nos comportements sont aujourd'hui politiques. Le comportement à l'égard du partenaire, le comportement à l'égard des enfants, tout ceci, finalement, a des lectures politiques, dans la mesure où, justement, ici, dans ce papier, on se penche sur ce qu'on appelle la violence domestique, hein, et on voit bien que en grande partie ces violences viennent d'une tradition de ce qu'on appelle le patriarcat, c'est-à-dire cette idée d'abord de base qui a été très enracinée comme ça dans la pensée du 19e siècle, qu'il y a comme une supériorité en quelque sorte génétique ou biologique chez les hommes et une infériorité donc symétrique chez les femmes, et puis une tradition aussi sociale qui fait que la parole de l'homme au sein même du foyer est une parole qui a plus d'autorité, disons, que toutes les autres. On sait que tout ceci est en train de changer aujourd'hui, mais on ne mesure pas à quel point, alors que tout ça a été largement mis en cause, ces violences atteignent des dimensions extrêmement graves. Il faut voir que dans certains pays, tous les deux jours, une femme est victime de la violence de son compagnon. Ça peut être son mari, son amant, etc.
Et ce que vous dites, c'est que c'est pas des pays nécessairement de sauvages du Sud, ou c'est pas des pays dans développement, mais ça se passe dans nos contrées septentrionales.
Voilà. D'abord, j'ai voulu circonscrire le problème qui se pose dans tous les continents et dans toutes les sociétés, au milieu de toutes les cultures et de toutes les religions. Mais j'ai voulu le circonscrire à l'Europe pour qu'on en prenne conscience. Parfois, on dit, ça, c'est des mœurs, finalement, de pays éloignés, pas assez bien éduqués, etc. Et en nous basant sur l'ensemble des dossiers qui existent et qui sont maintenant nombreux et très documentés, j'ai voulu montrer deux choses. Premièrement, effectivement, il n'y a pas des pays plus violents à cet égard que d'autres, et que même cette idée que l'on a que les pays du sud de l'Europe, par exemple, qui sont effectivement beaucoup plus machistes dans la tradition, seraient plus violents, finalement plus meurtriers à l'intérieur du huis clos que ceux du nord. Même les statistiques nous disent que c'est l'inverse, malheureusement. C'est-à-dire que dans des pays où légalement un ensemble de droits ont été acquis par les femmes, notamment la parité, toutes sortes de reconnaissances des droits des femmes, eh bien, à l'intérieur du foyer, en Finlande, en Norvège, en Suède, on tue plus de femmes en raison des brutalités que dans des pays comme l'Italie, l'Espagne ou l'Irlande, considérés comme des pays machistes. Deuxième idée, ou deuxième cliché contre lequel on a essayé également d'aller, en se basant toujours sur des chiffres produits par soit le Conseil de l'Europe, soit l'OMS, soit Amnesty International, c'est-à-dire de dire que ces violences-là, à l'intérieur du foyer, ne se produisent pas majoritairement dans les milieux défavorisés, d'ailleurs où l'absence d'éducation, les conditions sociales difficiles, etc., pousseraient l'alcoolisme, pousseraient les hommes du foyer à être brutaux. Bien sûr, ça existe, c'est évident. Mais par exemple, on donne des chiffres. Par exemple, je vous lis une phrase d'un des rapports présentés par le Conseil de l'Europe. L'incidence de la violence domestique semble même augmenter avec les revenus et le niveau d'instruction. Aux Pays-Bas, par exemple, presque la moitié de tous les auteurs d'actes de violence à l'égard des femmes sont titulaires d'un diplôme universitaire. Hein, donc ça veut dire que, en France, par exemple, les deux tiers des auteurs de violences sont des cadres, cadres moyens, cadres supérieurs, etc.
Le cliché de la brute épaisse prend un coup, là.
Voilà, le cliché de la brute épaisse existe, mais il existe. Cette brute épaisse, on la trouve dans tous les milieux, malheureusement. Et donc, je dis, c'est une affaire, nous disons, bien entendu, c'est une affaire politique, c'est une affaire qui relève de la défense des droits humains. Hein, et il y a, bien sûr, des cas de violation des droits humains, souvent qui nous mobilisent, qui nous révoltent, hein, mais on ne veut pas voir, ou on hésite à voir, ou on ne sait pas, on ignore tout simplement que ces violences-là, finalement, elles se passent autour de nous, dans des milieux qui, par ailleurs, sont des milieux qui présentent bien. C'est ce type de dénonciation, basée sur des données que l'on a voulu présenter dans ce texte-là.
Et en chute, une proposition aussi, une ouverture, en tout cas un vœu, comme il y avait eu il y a quelques années de ça, le vœu pour une taxation des spéculations financières.
Oui, c'est une proposition qui est faite par beaucoup d'organisations féministes, hein, c'est-à-dire qui souhaitent, étant donné les dimensions de ces brutalités, ce sont des milliers de femmes qui sont tuées, des dizaines de milliers à l'échelle de la planète, et tout ça dans le silence, tout ça dans le finalement dans la complicité un petit peu masculine. Les organisations féministes proposent que soit créée une sorte de tribunal permanent des violences domestiques pour inciter le gouvernement à se doter de lois qui punissent en particulier ce type de violence qu'on appelle de plus en plus des violences de genre.
Peut-être à la Grèce, oui. Les rapports de genre étaient souvent invisibles. C'est souvent, on ne pose pas ces questions. Je veux dire, même dans les, je suis toujours frappé à quel point, par exemple, quand on parle de la France, du vote des Français. Alors, vous avez toujours des choses très compliquées sur comment votent toutes les couches sociales, etc. Mais très rarement, on met en évidence comment votent hommes et femmes. Par exemple, si les hommes avaient été seuls à voter à l'élection présidentielle, Le Pen serait arrivée en tête du premier tour. Et si les femmes avaient été seules à voter au moment de l'élection présidentielle, Le Pen n'aurait pas été présent au second tour. Et dans le vote Front National, un des éléments les plus importants, c'est cette coupure entre le vote masculin et le vote féminin. C'est-à-dire qu'en gros, pour dire très vite, 20% des hommes votent Le Pen, mais seulement 10% des femmes. Or ça, c'est quelque chose dont on ne discute même pas, qui est invisible et qui me semble important.
Oui. La difficulté, c'est de pas institutionnaliser ces différences. Effectivement, s'il y a des différences de comportement électoral, par exemple, entre les hommes et les femmes, il ne faut pas non plus en tirer des conséquences essentialistes en disant « les femmes sont ceci, les hommes sont cela ».
Anne-Cécile
Robert.
Et c'est,
à mon avis, un des grands travers du débat actuel sur le féminisme, c'est l'essentialisation rampante de la question.
Qui est finalement... Comme il y a eu l'ethnicisation, là, c'est...
Tout à fait. C'est encore une façon, d'ailleurs, de faire peser sur les femmes un certain poids que moi j'appelle la logique sacrificielle. C'est-à-dire, comme on a dit, les femmes doivent sauver la société, doivent venir au secours des hommes. Aujourd'hui, elles doivent aussi lutter contre le Front National, résoudre tous les problèmes. Donc il faut revenir, je pense, à des analyses sociales, refaire de la vraie politique, en fait, et replacer la question de la domination dont sont victimes les femmes dans ce cadre-là.
Let's go.
Alors, une grande partie du monde diplomatique de ce mois de juillet, autour des États-Unis, sous plusieurs aspects, la campagne qui va battre son plein et qui va monter en ampleur, j'imagine, pendant les vacances. Et puis aussi, bien entendu, la situation en Irak et ses répercussions sur le marché pétrolier. Et un article qui parle aussi, justement, en contre-coup, de l'implantation de plus en plus importante des États-Unis dans les ressources pétrolières et minières en Afrique.
Écoutez, ce dossier est ouvert par un article de Michael Clare, qui est un universitaire américain, qui se penche sur le programme de politique étrangère du candidat Kerry. Et je crois que c'est très important parce que il amène à se poser une question tout à fait fondamentale sur la politique américaine actuelle. C'est qu'est-ce qui, dans cette politique américaine, relève de décisions de Bush et de son équipe et des néoconservateurs, et qu'est-ce qui relève de logique plus profonde? Et notamment la manière dont les élites américaines dans leur ensemble peuvent réagir après le 11 septembre 2001. Par exemple, sur cette question du budget militaire, on oublie souvent de dire, quand on constate l'extraordinaire augmentation du budget militaire, que c'est une augmentation qui a commencé dans les deux dernières années de la présidence Clinton et qui répondait à une certaine vision stratégique. Donc je crois que, sans tomber dans l'idée que le candidat Kerry serait comme Bush, je veux dire que c'est les mêmes politiques, je ne le crois pas, il faut aussi se garder de l'idée que si Kerry l'emportait, il changerait radicalement la politique étrangère américaine. Je crois que c'est bon, et Michael Clare explique tout à fait cette différence, ou cette convergence plutôt entre les candidats, et en même temps leur différence. Par exemple, il explique que Kerry est beaucoup plus intéressé au multilatéralisme, contrairement aux néoconservateurs et à Bush, qui tablent sur une politique unilatérale. Mais je crois que c'est vraiment important, parce que c'est, si vous voulez, ce qui va se décider en novembre. Il y a un enjeu tout à fait important, et personnellement je pense que il serait très souhaitable de se débarrasser de cette équipe qui est aujourd'hui au pouvoir, mais en même temps sans se faire d'illusions sur qui va les remplacer, enfin quel type de politique va être mise en place.
C'est-à-dire que Michael Clare, qui est un universitaire américain qui a fait cet article, insiste bien sur le dire qu'il y a comme une force d'inertie de tout l'appareil au pouvoir, qui n'est pas nécessairement imputable à la doctrine Bush.
C'est pas une force d'inertie, c'est les intérêts, je dirais, communs des gens qui sont représentés aujourd'hui par les démocrates et les républicains. C'est qu'il y a une certaine vision de l'Amérique, notamment après le 11 septembre, qui a été quand même un choc pour les élites, mais qui a commencé avant. Il y a une position commune à l'égard de la mondialisation, à l'égard de l'Irak. Je veux dire, ça reste quand même un socle commun de cette politique. Maintenant, comment elle va être mise en œuvre est une autre chose. Avec un élément tout à fait important quand même, c'est que ce que Michael Clare met en œuvre, c'est le caractère peu créatif, peu agressif du programme de Kerry à l'égard de Bush. C'est-à-dire que justement parce qu'il y a une atmosphère d'unité nationale, en tous les cas dans une partie des couches américaines, l'impression qu'ils sont...
Il faut qu'il y ait un chef de guerre.
Il est très prudent à l'égard de ce chef de guerre. Et ce qui fait qu'on assiste à un paradoxe aujourd'hui, c'est que Bush descend dans les sondages, dans le sens où les gens sont de plus en plus insatisfaits de sa politique et de sa politique étrangère, mais dans la compétition entre Bush et Kerry, on reste encore au coude à coude, parce que Kerry ne développe pas une politique, je dirais, de gauche à l'américaine même, mais de gauche démocrate traditionnelle.
Sur la campagne aussi, à son manière.
Non, un mot simplement sur cette la dimension, disons, de la personnalité aux États-Unis. On le voit bien. Je veux dire, on ne peut pas dire, et Michael Clare ne le dit pas, même s'il montre des réserves à l'égard du programme, que Kerry et Bush est à peu près, disons, la même chose. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu avec l'équipe Bush. Il y a une tradition républicaine, bien entendu, aux États-Unis, marquée en particulier dernièrement par des présidents comme Nixon ou comme Reagan, etc. Mais on a vu que Bush est arrivé avec un groupe dans lequel des personnalités, notamment comme Cheney ou Rumsfeld, travaillent avec Bush père, bien entendu, et qui entourent Bush fils. Comment le rôle très important personnel qu'ils ont eu pour créer en particulier l'idée qu'il fallait faire la guerre à l'Irak, qui n'était dans aucune tradition. Il faut se souvenir que le propre père de Bush n'est pas allé jusque-là, même en 91, parce qu'il n'avait pas, disons, le mandat des Nations Unies pour le faire. Donc, il y a des dimensions très personnelles, et on peut imaginer que, tout en défendant les mêmes intérêts, qui sont historiques, traditionnels, etc., l'application varie. Hein, et donc, par conséquent, je crois qu'il n'y a pas photo entre Kerry ou ce que serait une administration, disons, démocrate, et cette actuelle administration, si elle était reconduite sur ces bases-là. Je crois qu'on irait là devant une aventure internationale extrêmement dangereuse, aussi bien pour les citoyens américains que pour une grande partie de l'humanité.
Juste un mot pour
Dominique Vidal.
Oui, on a titré sur les prudences du candidat Kerry, mais on aurait pu dire les prudences du Parti démocrate. Et les prestations nombreuses d'ailleurs, extrêmement nombreuses, de l'ex-président Clinton dans les médias français à l'occasion de la parution de son livre, le confirment. Parce qu'au fond, qu'est-ce que fait Clinton ? Il critique très modérément son successeur, très modérément. Il insiste sur le multilatéralisme, comme l'a dit Alain. Mais en même temps, il n'y a pas de rupture dans ses propos radicales avec la politique menée par Bush, y compris en Irak. Il y a un jeu assez subtil, on l'a vu encore récemment à la télévision, dans une interview longue et extrêmement complaisante d'ailleurs. Au fond, je trouve que le concept qui est très fort dans le papier de Claire, c'est cette idée de nationalisme éclairé. Parce que dans nationalisme éclairé, il y a éclairé, il y a donc multilatéraliste, il y a donc la volonté de travailler avec les alliés, il y a la volonté d'essayer d'éviter des conflits qui emmèneraient trop loin les États-Unis, mais il y a aussi nationalisme. Et ce nationalisme demeure, il demeure dans les propositions de Kerry. Je crois que c'est bien qu'on se débarrasse d'une réflexion en termes de blanc-bonnet, bonnet-blanc, comme on disait dans la tradition française, mais c'est bien aussi qu'on évite l'autre danger qui serait
d'avoir un ange blanc,
voilà, des illusions excessives sur ce que sera, s'il est élu, la politique de Kerry. Je trouve, de ce point de vue, c'est un papier très diplôme qui prend en compte l'ensemble des contradictions.
Oui. Bush est une figure tellement repoussante que c'est vrai qu'à la limite n'importe qui ferait l'affaire, on se dit tout sauf Bush, mais au-delà de ça, on ne peut pas éviter une réflexion sur ce que serait un ordre multilatéral, et malheureusement effectivement le Parti démocrate a l'air assez à court de réflexion sur l'ordre multilatéral, le rôle des Nations Unies, et les prudences de Kerry illustrent en fait ce manque de pensée sur l'ordre mondial qui rejoint d'ailleurs le manque de pensée de l'Europe, de l'Union Européenne qui pourrait être l'autre interlocuteur de la planète et qui se tait. Est-ce qu'il faut un unilatéralisme dur ou un multilatéralisme de façade ? Tout ça, c'est assez déprimant. Mais en tout cas, le vrai enjeu pour la période qui s'ouvre, c'est de faire des propositions pour un rééquilibrage de l'ordre mondial, un vrai rôle des Nations Unies, une vraie multipolarité.
On continue avec la Sécu. Alors, ce que le Monde Diplo montre dans ces deux articles mis en juxtaposition, c'est d'un côté, nous courons toujours après ce modèle américain par capitalisation, on nous prédit que ce sera la panacée, alors que face au nombre croissant dans la société américaine d'individus qui n'ont pas accès à la protection sociale, 43 millions de citoyens américains, en contrepoint donc un article qui nous dit que les Américains nous lorgnent sur notre modèle.
Dans ce dossier, finalement, les lecteurs apprendront en tout cas une information qu'on a soigneusement cachée, c'est que même si ici elle est fortement critiquée par les patrons, disons les patrons américains aujourd'hui, réclament à l'administration Bush la mise sur pied d'un modèle, finalement, de sécurité sociale semblable à celui des Français.
Oui, comme vous le savez, les États-Unis, les Américains dépensent 14% de leur produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse nationale produite dans le système de soins et de santé. Alors qu'en France, le pourcentage n'est que de 9,5%. Donc nous sommes tout à fait dans la moyenne européenne, et donc il n'y a pas à s'affoler que l'on dépense davantage d'argent dans une société où les gens vivent beaucoup plus vieux. Il ne faut pas considérer ça comme une charge, mais comme un facteur d'épanouissement. D'autre part, le trou de la sécu, qui est l'angle à travers lequel on aborde le problème exclusivement, eh bien, est un trou totalement gérable. 13 milliards d'euros en 2003, il y a beaucoup de façons de récupérer très facilement 13 milliards d'euros. Or, effectivement, les réformes qu'il faudrait plutôt appeler contre-réformes, comme l'ensemble d'ailleurs de celles qui ont été effectuées par le gouvernement Raffarin, obéissent toutes à une même logique, c'est revenir sur des acquis, disons, qui datent de la Libération. En fait, on est en train de revenir sur la mise en application du programme du Conseil national de la Résistance, dont nous avons parlé au mois de mars dans nos colonnes. Et depuis, le FMI et la Banque mondiale ont considéré que ces réformes, retraites, sécu, etc., avaient été décidées dans une des circonstances exceptionnelles, qui était un rapport de force très différent entre la gauche et la droite, disons, pour simplifier, en Europe, au lendemain de la guerre.
Et les forces politiques et syndicales et le patronat.
Voilà, et un patronat très affaibli, notamment en France, par la collaboration avec l'ennemi nazi. Et donc, ces circonstances exceptionnelles ayant disparu, il faut revenir à l'ordinaire, et cet ordinaire, c'est effectivement les projets que l'on nous présente, exclusivement d'ailleurs sous l'angle du financement, alors que c'est loin d'être le seul problème qui se pose pour l'assurance maladie. Mais si on veut parler du financement, ce fameux trou, il y a plein de façons de le combler. Si c'est ça le problème, ce n'est pas le seul problème. Il faut accepter qu'il y aura davantage de dépenses, et il y a beaucoup de choses à faire dans la prévention des maladies, ne serait-ce que les maladies professionnelles. On sait que l'amiante continue à tuer 3000 personnes par an en France, et ça va malheureusement continuer. La pollution urbaine sont des causes de cancer. Enfin, s'il y avait un véritable travail de prévention, les accidents du travail, etc., etc. Mais ça, la réforme, entre guillemets, ne l'envisage pas. De même qu'il y a des choses à faire en matière de prise en charge du patient. Alors, on dit Douste Blasi a joué au scandalisé en parlant de l'excès des certificats de maladie de complaisance, alors qu'ils représentent même pas 1%, 0,0 quelque chose. Bon, c'est vrai, c'est pas normal, mais c'est pas de ce côté-là que l'on va faire vraiment des économies sérieuses.
Mais politiquement, c'est toujours profitable de pointer des abus.
De pointer des abus, et comme ça, l'opinion peut dire, si on supprimait les abus, on supprimerait le trou. C'est ridicule. Il faut évidemment supprimer les abus lorsqu'il y en a, mais il ne faut pas donner d'illusions aux gens sur ça. Bon, il y a également aussi les groupes pharmaceutiques qui gémissent en permanence que si jamais on les taxe, ils ne pourront plus faire de recherche. Or, ils dépensent davantage en communication, c'est-à-dire pour forcer la vente, que en recherche. Ça n'apparaît jamais dans leur plan de communication qui arrose une large partie de la presse. Et la liberté des prix qui leur est accordée pour les médicaments dits innovants est choquante, parce que l'auteur nous cite quelques chiffres. Il dit qu'en 21 ans, sur 1996 nouveautés vendues, seules 7 peuvent être considérées, donc 3,5, même pas 7 sur 2000 peuvent être considérées comme véritablement innovantes. Donc, alors...
Un mot, Ignacio Ramonet, quand même, justement, papier très critique de Philippe Pignard, qui est un ancien cadre de Sanofi Synthélabo, et qui parle justement de la fusion Sanofi-Aventis en la critiquant, même fusion qui est mentionnée quelques pages après dans une pleine page du Monde Diplomatique, une page de publicité. Alors comment on fait avec ça? Éditorialement, est-ce qu'on joue dans la même catégorie?
Non, bien entendu, je veux dire qu'un texte rédactionnel a infiniment plus de force qu'un texte publicitaire. Hein. Même si le texte est plus court, il ne fait pas une page, mais les arguments sont tellement nets, tellement clairs, tellement forts, que je dirais malheureusement pour l'annonceur, sa pleine page apporte bien entendu une aide nécessaire pour notre journal et pour son indépendance. Quant aux arguments, ils sont battus en brèche par ce texte-là. Ce n'est pas la première fois que ça se produit dans le journal. Parfois, d'ailleurs, les lecteurs ne voient pas l'humour ou même le message qu'il y a dans ce dans cette espèce de dialogue, hein, et nous disent mais comment pouvez-vous critiquer, je ne sais pas,
vous êtes vendu
la régie Renault et en même temps publier. Bien justement, nous sommes un des rares journaux à pouvoir le faire, hein, parce que disons chez nous la publicité est limitée, contenue. Et donc, dans ce cadre-là, le journal n'a pas besoin, à la limite, de la publicité pour vivre, mais nous avons besoin d'une part de publicité, ça a toujours existé. Nous avons publié l'édito du premier numéro, dans lequel Boeuf Méry, d'ailleurs, fixait un petit peu la ligne et rappelait que ce journal vivrait sans aucun appui, bien entendu, officiel, mais vivrait de ses ventes et de la publicité. Donc nous avons réduit ça à 5% du chiffre d'affaires. C'est maintenu, ça n'a jamais été dépassé. Et parfois, lorsque les publicités nous irritent, eh bien, il y a un texte qui vient corriger un petit peu le sens de cette publicité.
La publicité dans le monde diplomatique, donc vous avez effectivement à quelques pages de différence.
Mais c'est une page de la page 5, le papier de Pignard, l'addition de Sanofi à 26.
Une pub.
Page 9.
Et une critique extrêmement sévère de cette fusion, de cette du rachat d'Aventis par Sanofi Synthélabo, en particulier de la méthode utilisée qui a consisté à, d'abord par un échange d'actions, mais aussi par un versement de 16 milliards d'euros aux actionnaires d'Aventis. 16 milliards d'euros que les repreneurs n'avaient pas, qui sont en train d'emprunter. Donc c'est la nouvelle entreprise qui va payer, on va se payer sur la bête, on a distribué 16 milliards d'euros aux actionnaires, alors que le fameux trou de la sécu n'est que de 13 milliards d'euros.
Valium, Tranxène, Nabucal, yogourt, acide. Valium, Tranxène, Nabucal, yogourt, acide.
Maintenant, si on voulait en venir au trou.
Oui, parce que le monde diplomatique, par la plume de Dominique Sicot, fait des propositions.
Alors, Dominique Sicot, il donne quelques pistes pour rechercher des financements. Donc, gardons en tête 13 milliards. Alors, prenons un chiffre. Par exemple, les exonérations de cotisations salariales payées par l'entreprise atteignent le chiffre de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros.
Bien.
Soi-disant pour lutter pour l'emploi, avec les résultats que nous connaissons. De la même manière, on pourrait penser que les revenus financiers des entreprises, 165 milliards d'euros, qui actuellement ne sont pas...
165 milliards
d'euros de revenus financiers des entreprises ne sont pas taxés. Ils sont exonérés de tout prélèvement social. On peut imaginer qu'il y aurait certainement quelque chose à trouver de ce côté-là. Même 13 milliards sur 165 milliards, ça ne fait pas beaucoup. Il y a les dettes aussi patronales qui atteignent 10 milliards d'euros d'impayés. Alors certaines entreprises ne peuvent pas payer, d'autres le peuvent. Il y a également le fait que des formes de rémunération, l'épargne salariale et l'intéressement, dont d'ailleurs l'entreprise Monde Diplomatique fait bénéfice à l'aide, ne sont pas assujettis aux cotisations. Et nous demandons évidemment qu'elle le soit. C'est profondément injuste. Ça assèche en quelque sorte la Sécu. Et le gros du financement vient de la CSG, la contribution sociale généralisée, qui était au départ censée boucher un trou et qui a été créée en 1991. À l'époque, elle a rapporté 4,2 milliards d'euros et actuellement, elle en est à 33,9 milliards d'euros. C'est-à-dire 800% de croissance. Et en fait, la CSG rapporte, si je puis dire, plus que l'impôt sur le revenu. Or, la CSG est un impôt proportionnel. On paye 7,5%, quel que soit le montant que vous gagnez, 10 millions d'euros par mois ou 1000 euros par mois. Et dans le même temps, l'impôt sur le revenu, qui lui est un impôt progressif, est de moins en moins progressif, puisqu'on est en train de supprimer, Chirac a promis de réduire de 30%. C'est-à-dire que les contribuables les plus aisés paieront beaucoup moins d'impôts.
7% de beaucoup, c'est peu. Tandis que 7% de peu, c'est beaucoup.
Ah ben oui, je sais pas quel est l'auteur qui disait, c'était Alphonse Allais, je crois, oui, Alphonse Allais, qui disait que pour trouver de l'argent, en fait, il faut plutôt aller le chercher chez les pauvres que chez les riches. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de pauvres, finalement. Donc, je pense que Philippe Douste-Blazy et le gouvernement Raffarin suivent de près les préceptes d'Alphonse Allais. C'est essentiellement les patients, les malades, les assurés qui vont payer. Ce ne sera pas les entreprises, ce ne seront pas les labos, etc. Donc c'est une réforme profondément injuste, mais que le gouvernement gère avec assez d'astuces quand même. En tout cas, il faut bien savoir que le modèle de référence, malgré les démentis, c'est le modèle américain, un modèle qui coûte 14% du PIB. Nous,
moins de 10, qui laisse sans couverture un quart des Américains et avec une couverture très déficiente, la moitié des Américains. Voilà l'exemple que nous voulons suivre. Et si nous avons donc un peu de retard encore sur les États-Unis de ce côté-là, j'ai entendu que nous allions rattraper un autre retard, un de ces malheureux retards français sur l'obésité, qui est d'ailleurs une maladie qui pourrait être réglée s'il y avait beaucoup plus de prévention et beaucoup moins également de misère, d'inégalité sociale. Eh bien, je crois qu'à l'horizon 2010-2015, la France devrait avoir rejoint le peloton de tête de l'obésité dans le monde qui est tenu par les États-Unis.
Pour finir avec ce numéro de juillet du Monde Diplomatique, vous publiez un texte de Maxime Rodinson, qui est mort en mai dernier, mais un texte de 1967.
Oui, on voulait pas laisser partir Maxime Rodinson comme ça, sans lui rendre hommage. C'était un grand orientaliste, un grand sociologue, un grand linguiste. Il parlait une trentaine de langues et de dialectes. Un écrivain extrêmement prolifique, on lui doit beaucoup de livres, je ne vais pas les citer là, mais enfin, précipitez-vous sur les bibliographies, vous verrez des livres majeurs, hein, les Arabes, Mahomet, peuple juif ou problème juif, etc. Et surtout un grand, ou aussi, un grand militant, quelqu'un qui s'est toujours battu pour la paix entre les Arabes et les Juifs au Proche-Orient. Et ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que vous l'avez dit, il date de 1967, il a été publié par Le Monde, le jour du début de la guerre des six jours. Et donc, il était écrit la veille. Et quand on le lit, c'est un article absolument prémonitoire. Tout y est.
Le titre est « Vivre avec les Arabes ».«
Vivre avec les Arabes ». Pourquoi dit-il « Vivre avec les Arabes » C'est le titre original. Parce qu'il dit, au fond, toute la logique de force qui a été celle de l'État d'Israël jusqu'à ce moment-là, 67, mais on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui, elle a fait faillite. Elle n'a pas réussi à faire accepter dans l'injustice, le fait national israélien. Et donc, Rodinson écrit, il est temps...
En 67,
mais c'est vrai aujourd'hui, d'imposer une autre logique, qui est d'obtenir effectivement la reconnaissance du fait national israélien, mais dans la reconnaissance de l'injustice faite aux Palestiniens, et donc dans la reconnaissance du droit des Palestiniens à un État aux côtés de l'État d'Israël. Et on a là un article, il faut le lire, je ne veux pas en lire des extraits, absolument superbe, qui se termine par le paragraphe suivant, que je vais lire quand même. « S'il est une tradition de l'histoire juive, c'est celle du suicide collectif. » Il fait référence à Massada, bien sûr. « Il est permis aux purs esthètes d'en admirer la farouche beauté. Mais peut-être comme Jérémie à ceux dont la politique aboutit à la destruction du premier temple, comme Ben Zakkaï à ceux qui causaient à la ruine du troisième, peut-on rappeler qu'il est une autre voie, si étroite que l'ait rendue la politique passée ? Peut-on espérer, conclut Rodinson, que ceux qui se proclament avant tout des bâtisseurs et des planteurs choisiront cette voie de la vie ? Bien, au fond, on est exactement dans la même logique, malheureusement, aujourd'hui, 35 ans plus tard. Et c'est vrai que La Route 181, le film d'Eyal Sivan et de Michel Khlefi, montre bien dans cette promenade le long de la ligne de partage fixée par l'ONU en 1947, et qui n'a, on le sait, jamais vu le jour, malheureusement, cette promenade montre combien les préjugés sont enracinés, combien de part et d'autre il y a d'efforts à faire pour aller vers une solution de paix, mais qu'aucune solution de paix n'est pensable sans la reconnaissance de l'injustice commise et sans la satisfaction des droits nationaux des Palestiniens. On est au fond dans la même logique, celle de Rodinson, celle beaucoup plus tard de ce film.
Un dernier mot, simplement, pour terminer, pour attirer l'attention de nos auditeurs, en particulier sur un texte que nous publions en exclusivité et qui est le discours de réception du prix Nobel du très grand écrivain sud-africain Coetzee. Donc la Fondation Nobel nous a donné l'autorisation de le publier, il est dit en français, et Coetzee, pour la première fois en quelque sorte dans l'histoire du Nobel, il a reçu le prix Nobel de littérature, plutôt que de faire un discours traditionnel,
un compliment
ou bien une espèce de réflexion comme ça abstraite, a créé un petit texte de fiction, un merveilleux texte de fiction, et j'invite vraiment les lecteurs à le lire en raison de la qualité remarquable de l'écriture et aussi de l'atmosphère exceptionnelle qu'il crée, partant de quelques mythes de la littérature, comme celui en particulier de Robinson Crusoe. Hein. Et c'est une réflexion bien entendu sur l'actualité, mais c'est aussi un texte extrêmement profond sur la littérature. Deuxième remarque également, je voudrais dire que nous n'avons pas la chance de faire un Là-bas si j'y suis en août. Hein.
J'allais vous demander justement, voilà. Qu'est-ce que vous nous préparez pour les lectures de cet été ?
Et alors, Le Monde diplomatique paraît 12 fois l'an, donc paraît en août, et traditionnellement en août, on fait un numéro qui est un petit peu plus axé magazine, je dirais, hein, parce qu'on sait que nos lecteurs ont un petit peu plus le temps de le lire, donc il y a beaucoup plus de propositions, et réellement, là, c'est une espèce de merveilleux feu d'artifice de, à la fois de grands sujets et de grands auteurs. Il va paraître dès le 29 juillet et on va pouvoir trouver des textes d'Eduardo Galeano, des textes d'Edouard Saïd qui lui aussi nous a quittés, et nous avons la chance de publier un texte inédit sur la langue arabe comme instrument à la fois politique et poétique, hein. Des textes de José Saramago, prix Nobel de littérature lui-même, des textes d'autres écrivains bien sûr, mais aussi on publie évidemment une réflexion sur les Jeux Olympiques, sur la géopolitique des Jeux Olympiques. On publie des textes sur Tombouctou et les manuscrits qu'on vient de trouver à Tombouctou et l'énigme que cela représente, et en particulier aussi le fait que, eh bien, ça montre finalement que l'histoire de l'Afrique est aussi une histoire écrite et pas seulement une histoire orale. On a un extraordinaire reportage de Dominique, je le dis, même si sa modestie doit en souffrir, reportage un peu sur l'idée que le film qui a eu beaucoup de succès Goodbye Lenin, hein, sur cette espèce de nostalgie des années RDA qui existe aujourd'hui en Allemagne, et je crois que c'est une façon de mieux comprendre ce qu'est l'Allemagne d'aujourd'hui. On a un reportage et une enquête sur ces guerrieros, ces eco-warriors, on les appelle, des guerrieros qui sont prêts à l'action violente pour défendre le droit de l'animal, notamment ceux qui sont exposés à la vivisection et à la torture dans des laboratoires. Bref, beaucoup de sujets. On a un reportage en particulier de Bernard Cassen sur la Dordogne anglaise, cette espèce de petite infiltration que font les communautés britanniques dans cette région de la Dordogne.
En investissant massivement dans la pierre.
Dans la pierre, mais en créant également leur lieu de vivre et leur lieu de détente. Il faut se souvenir que c'était un territoire très disputé pendant 100 ans, pendant la guerre de 100 ans, et qu'on peut y voir une sorte de revanche de la guerre de 100 ans. Il y a évidemment des textes aussi qui vont rendre hommage à la libération de Paris et aux libérateurs, bien sûr, évidemment, la colonne Leclerc, la division de Leclerc, la célèbre 2e DB, mais en particulier rappeler que les premiers à entrer dans Paris, les premiers libérateurs, ont été des étrangers, en particulier des Espagnols, anarchistes espagnols, qui avaient vécu la guerre d'Espagne. Bref, on fera un bilan également du règne de Mohamed VI au Maroc. Ça sera 5 ans, fin juillet, qu'il est roi, qu'il gouverne. Quel est le bilan de ces 5 ans, qui sera tout à fait rigoureux. Hein. Donc un numéro extrêmement riche, qu'il ne faut pas oublier.
Et qui nous fait beaucoup de lectures pour préparer la rentrée.
Voilà, c'était le Duplo avec Ignacio Ramonet, Alain Grech, Bernard Cassen, Dominique Vidal et Anne-Cécile Robert. Il y avait quand même une femme dans cette équipe aujourd'hui. Demain, on retrouve Serge Halimi, qui est journaliste aussi au Monde Diplomatique. Mais là, on le trouve comme auteur d'un livre qui va faire date, qui s'appelle « Le grand bond en arrière ». Qui a été publié chez Fayard, et où Serge Halimi, c'est un boulot très très long, il a 3 ans, 4 ans de travail sur ce gros bouquin, et il explique ce qu'est l'idéologie libérale, derrière cette chose qui a l'air d'être naturelle, ça va de soi, il n'y a pas d'alternative, c'est évident, il n'y a plus à discuter, c'est la fin de l'histoire, et il nous montre à quel point il y a derrière ça une idéologie, il y a des gens qui l'ont pensé, qui ont attendu que ça se réalise. Il y a eu l'opportunité au début des années 70 de ce qu'on a appelé la crise, et comment en l'espace de 30 ans, entre 1973 et aujourd'hui, eh bien, il y a un basculement complet des valeurs, de l'ordre des priorités, du rôle de l'État et de cette prééminence absolue de l'économique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les stratégies qui ont été à l'œuvre, et notamment ce que Halimi, avec d'autres, appelle le léninisme de marché. Ce sera donc demain dans Là-bas si j'y suis. Là, il nous reste quelques instants, et vraiment à la demande générale, on cède parce que il nous reste, c'est l'avant-dernière de la saison, et on rentre en septembre, on sera là à nouveau en septembre, mais vous êtes, il n'y a pas un jour sans que vous nous demandiez la fameuse chanson de Jérôme Bourdelon. Il faut dire quel est le fautif, quel est le responsable de ce qu'on va entendre sur un air connu et qui sera, le tube de la saison de Là-bas si j'y suis, 2003-2004, Raffarin, nous voilà.
Une flamme sacrée nous monte du Poitou, et la France enivrée salue ton ventre mou. Ernest-Antoine Célière vénère ton talent, tu passes la salière et tu réponds présent.
Raffarin, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'aimons, de servir et de suivre tes pas. Raffarin, nous voilà.
Raffarin,
Raffarin,
nous voilà. De devant Jacques Chirac, nous bénit Sarkozy. À grands coups de matraque, sous ton œil attendri, en nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie une troisième fois.
La fin, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas. La fin, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. La fin,
de sa commandanture, Ayagon sans relâche, extirpe de la culture l'intermittent bravache, en brandissant verveine, le rouge s'aplatit, le magistrat se démène, Beauvais anéanti.
La fin, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas. La fin, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. La fin,
le gueux est inhumain, quel triste épouvantail, n'écoutons plus sa haine, exaltons le chômage, et gardons confiance dans un nouveau destin. Raffarin, c'est la France c'est Raffarin.
Raffarin, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas. Raffarin, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Raffarin, Raffarin, nous voilà.
Bonjour Monsieur Mernet, je suis Colette d'Amassade dans l'Ariège, c'est tout près de la frontière espagnole. Enfin bon, je vais avoir 79 ans, mais hier, j'ai eu 15 ans. Parce que j'ai entendu l'hymne au maréchal et qu'un digne maréchal m'abonne ou pas aujourd'hui. Alors écoutez, j'ai trouvé ça ravissant, j'ai ri comme une folle. Et j'aimerais bien qu'on le rentende, ou tout au moins, est-ce que je peux vous envoyer une enveloppe timbrée, quelque chose comme ça, pour avoir le texte pour avoir ce texte. Je vous remercie. Ne me passez pas aujourd'hui sur le... Comment ça s'appelle? Dans le courrier. Parce que je vais être chez le médecin pour cet après-midi. Passez-le demain. Merci.
Je ne sais pas si on va le repasser demain. Voilà ce petit chef-d'œuvre. Les paroles sont de Jérôme Bourdelon et l'air est connu. Mais je me dis, mais il y a des jeunes générations qui ne doivent pas savoir à quoi ça correspond. Ben voilà, vous demandez à vos parents, à vos grands-parents. Mais ça illustre très très bien ce dont on parlera demain, c'est-à-dire le grand bond en arrière. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Mathias Saléon, Coy Nguyen, Guy Vanctil, Pascal E, Pascariello et Christophe Imbert, c'est l'équipe de la basse, j'y suis. Le répondeur, c'est 01 56 40 37 37. Et ce sera tout l'été le numéro du répondeur de la basse, j'y suis, 01 56 40 37 37, où vous nous raconterez ce que vous faites, ce que vous pensez, vos colères, vos rages, vos rigolades. Et ça nous fera des échos pour la rentrée de septembre. C'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale qui vient juste avant la pub.